Ce récit de la résurrection de Lazare est extraordinairement difficile. Non pas concernant les faits qui sont racontés assez clairement. Et bien sûr, on peut se poser la question de savoir historiquement ce qui s'est passé. Est-ce que Lazare est vraiment ressuscité? Est-ce qu'il était simplement dans un coma? Est-ce que ceci, cela? Questions qui sont de fausses et de mauvaises questions, parce que je crois qu'à l'époque, on ne se préoccupait pas du tout, du sens journalistique des affaires que l'on racontait. Mais les récits qui nous sont racontés sont évidemment des textes à interpréter. Mais justement, c'est là que réside la difficulté. C'est dans l'interprétation à donner à ce texte. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce texte veut nous dire ? Est-ce qu'il veut nous dire que Jésus peut faire revivre les morts physiques, comme il l'a fait pour Lazare ? Est-ce que cela voudrait dire que notre espérance chrétienne serait de croire que si un de nos proches ou quelqu'un que nous aimons meurt, eh bien on peut toujours croire que peut-être Jésus pourra lui faire revivre quelques heures de plus, quelques jours ou quelques années de plus ? Je crois que ce serait une fausse piste. Parce que un texte, en effet, n'a d'intérêt que par rapport à ce que l'on peut en faire aujourd'hui. Et la question, c'est bien, en effet, non pas ce qui s'est passé du temps de Lazare, mais qu'est-ce que nous pensons que ce texte peut nous dire pour nous aujourd'hui et maintenant ? Et peu importe, en effet, ce qui s'est passé pour Lazare il y a 2000 ans, peu importe, peu importe. La question, c'est qu'est-ce que nous pouvons attendre du Christ aujourd'hui ? Quelle espérance ? Quelle action de Dieu pouvons-nous attendre dans nos vies aujourd'hui ? C'est bien ça la question. Or, sur ce point, la plupart, des chrétiens, en tout cas dans l'Église réformée, n'attendent pas de Dieu qu'il ressuscite physiquement et pour tout de suite les morts qui sont morts, physiologiquement. Et quand les gens meurent, on appelle un pasteur, mais on ne lui demande pas de faire une prière en espérant que ça puisse ressusciter le mort sur place. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote amusante, quand nous avons voté les statuts de l'association cultuelle, il est dit qu'un membre de l'association cultuelle est rayé de la liste des membres électeurs pour la simple cause de son décès. Et par humour, un des conseillers presbytéraux s'est élevé dans l'Assemblée Générale en disant « Je trouve que c'est un manque d'espérance parce qu'après tout, qu'est-ce qui empêche de croire que Dieu pourrait ressusciter ce membre et qu'ainsi il pourrait de nouveau voter ?» Eh bien, c'était un humour justement montrant que fondamentalement, nous n'attendons pas aujourd'hui de Dieu qu'il ressuscite sur cette terre ceux que nous perdons physiologiquement, ceux qui meurent de mort biologique. Alors que faire de ce texte ? C'est là où il est encombrant. Est-ce que nous devrions dire, mais à ce moment-là, Jésus, s'il l'a fait du temps de Lazare, alors autrefois Dieu le faisait, et pourquoi ne le ferait-il plus aujourd'hui ? Qu'y aurait-il de changé ? Et d'autre part, si c'est autre chose que le texte veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Eh bien, je pense qu'effectivement, il faut essayer de comprendre exactement le sens de ce texte et que, fondamentalement, la lecture, plate, pure et simple de Jésus qui fait revivre Lazare et qui montre ainsi qu'il est vraiment très fort et très puissant ne fonctionne pas. Je crois que la clé du texte se trouve dans cette affirmation de Jésus qui concerne la résurrection. Lorsque Jésus demande à Marthe, « Crois-tu dans la résurrection des morts ?» Elle dit « Oui, j'y crois, mais dans l'autre monde, c'est-à-dire à la fin des temps. » Et Jésus lui dit « Mais non, ce n'est pas de ça qu'il est question. La résurrection, ce n'est pas pour un autre monde, ce n'est pas pour la fin des temps, c'est pour tout de suite. Moi, dit-il, je suis la résurrection et la vie. » Et je pense que c'est ça le message essentiel que veut nous faire comprendre ce passage. C'est que la résurrection que Dieu peut nous faire pour nous, la résurrection dont nous pouvons bénéficier, il ne faut pas l'attendre pour un au-delà lointain, mais qu'elle est pour tout de suite. Cette résurrection, elle est pour aujourd'hui, pour pour maintenant, sans attendre. Elle est pour vous, maintenant, ce matin, ici même. C'est ici la résurrection. Et quand on dit que Jésus est la résurrection et la vie, ce n'est pas pour dire « vous ne vous en faites pas, lors du jugement dernier, vous aurez une vie éternelle ». C'est pour dire que ici même, dans votre vie, il y a dans le Christ une puissance, une force extraordinaire de résurrection et de vie. Le Christ, aujourd'hui et maintenant, peut vous donner la vie. Alors cela, je le crois. Oui, le Christ est une source de vie. Oui, c'est aujourd'hui que le Christ peut me relever, me donner la vie. Mais alors, quel est le lien avec le récit qui suit ? Quel est le lien avec cette réanimation de Lazare ? Parce qu'en effet, on dit que c'est une résurrection, mais ce n'est pas une résurrection, c'est une réanimation. Lazare n'est pas ressuscité comme le sera le Christ. Puisque Lazare meurt, il revit, mais il va remourir, en quelque sorte. Ce n'est qu'un petit supplément de vie terrestre. Ce n'est donc pas une résurrection au sens de notre espérance chrétienne. C'est une réanimation provisoire. Et donc, quel est le lien ? A priori, aucun. Parce que Jésus dit, en effet, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Ce n'est pas le cas de Lazare. Lazare ne ressuscite pas là pour vivre éternellement. Il se relève pour remourir bientôt. Alors faudrait-il croire que nous soyons là dans deux récits totalement sans rapport, en fait ? L'un qui parle d'une résurrection spirituelle parce que Dieu nous donne une vie qui est une dimension, une qualité de notre existence qui est au-delà du physique, au-delà du matériel et qui, elle, demeure pour l'éternité. Et alors, c'est quoi cette réanimation un peu spectaculaire de Lazare ? Eh bien, je crois que il faut, pour comprendre cela, il n'y a en fait qu'une seule piste possible. C'est de comprendre que cette réanimation de Lazare n'est pas à lire au pied de la lettre, mais est à lire comme une image, comme une parabole, comme un symbole, une représentation, nous permettant de comprendre comment se passe notre propre résurrection. Il s'agit d'une image. Et ce récit nous permet en effet de comprendre, dans cette résurrection spirituelle qui est la nôtre, quel est le rôle de chacun, le rôle de Dieu, le rôle de celui qui est mal en point, le rôle des proches, le rôle du Christ. Et en effet, il faut bien comprendre que le mot « mort » dans la Bible est utilisé dans beaucoup de sens différents, et pas seulement dans celui de la mort purement physiologique. Par exemple, dans la parabole du fils prodigue, cet enfant qui quitte son père pour mener une vie totalement loin de Dieu, je dirais, loin du don, loin du service, loin de tout, quand il revient vers son père, le père dit à deux reprises « Je me réjouis, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. » Eh bien, c'est ça la résurrection. « Mon fils était mort et il est revenu à la vie. » Et de même, dans les épîtres de Paul, sans cesse aussi, il est question de mort et de résurrection. Et Paul, sur ce point, a une théologie très proche de celle de Jean. Et en effet, Paul ne parle jamais de la résurrection, ne parle pas de la résurrection au futur, comme une réalité pour le jugement dernier et les temps de la fin. Mais très souvent, Paul parle de la résurrection comme une réalité présente, voire même passé dans la vie de celui qui est converti à Dieu. Et Paul ne parle pas de la mort comme une réalité physiologique seulement, mais aussi comme une réalité spirituelle ou morale. Il y a de très nombreux exemples, mais voici ce qu'il dit en Éphésiens au chapitre 2. Quand Paul dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Vous étiez morts. Mais Dieu, qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, il nous a ressuscité. Donc voilà la théologie de Paul. Nous étions morts, mais c'est une mort spirituelle, mort parce que il n'y avait pas en nous cet éclat de la vie, de la vie en Dieu, de la vie éternelle, de la vie d'amour, qui elle seule est éternelle. Et Dieu nous a ressuscités, c'est-à-dire qu'il nous a vraiment rendu la vie, la vraie vie. Cette vie éternelle, cette vie de lumière, cette vie d'en haut, cette vie spirituelle qui est, elle, effectivement, au-delà de la mort. Et d'ailleurs, le mot que l'on traduit par « ressuscité » est en grec un mot beaucoup plus simple. C'est juste le mot « relever », se remettre debout, se remettre debout et en marche. Et c'est ça, effectivement, l'espérance chrétienne. C'est ça que le Christ prêche à Marthe. « Je suis la relevée, je suis la résurrection et la vie. » C'est de croire que Dieu peut nous relever, que Dieu peut nous redonner la vie, que Dieu peut nous remettre debout, que Dieu peut nous remettre en marche, quoi qu'il arrive. Et c'est ça le miracle extraordinaire. Parce que oui, malgré mon grand rationalisme, eh bien, je crois au miracle, mais pas n'importe quel miracle. Et je ne crois pas que de croire au miracle de Dieu, ce soit de nous faire croire n'importe quoi, ou des choses qui sont impossibles. Mais le miracle extraordinaire, la puissance formidable et extraordinaire de Dieu, c'est cette puissance qui nous est transmise par le Christ et qui peut permettre de nous relever et de nous remettre en vie, de nous remettre en marche et de redonner à celui qui est mort, comme le dit Paul, celui qui est fichu, celui qui est écrasé, celui qui n'est plus rien, celui qui est par terre, celui qui est tombé, il peut le remettre debout, il peut le remettre en vie. Comme Lazare est l'image de ceux qui sont enfermés dans un tombeau. Dieu peut nous libérer de tous les enfermements mortifères qui sont autour de nous. Et même si cela fait longtemps que notre vie semble fichue, comme Lazare dont on dit « ça fait 4 jours qu'il est mort et il sent déjà mauvais », on ne peut plus rien pour lui. Voilà ce discours de désespérance des proches de Lazare. Et Jésus dit, mais enfin, crois-tu dans la grâce dans la gloire de Dieu, dans la puissance de Dieu? Ce n'est pas parce que ça fait 4 jours qu'il est fichu, que tu dis qu'il ne vaut plus rien, qu'il est mort. Eh bien, moi, je te dis que Dieu peut le remettre en vie. Dieu peut le remettre debout. Même si tout le monde nous dit mort. Même si tout le monde dit qu'il n'y a plus d'espoir. Même si tout le monde dit que nous sommes fichus, même si tout le monde dit que nous ne sommes plus rien, le Christ, lui, peut nous remettre debout. Le Christ peut, lui, nous remettre en route. Contre toute attente, contre toute logique, contre tout pronostic, contre tout ce que l'on puisse imaginer, Dieu peut toujours nous redonner la vie. Tout est possible. Tout est possible à Dieu, nous dit l'Écriture. Oui, tout est possible. Non pas n'importe quoi, bien sûr, n'importe comment, mais tout est possible en ce qui concerne l'humain. Dieu peut faire pour chacun de nous infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Et c'est ça qui est extraordinaire, je crois, dans ce texte. Et ce sont d'ailleurs, effectivement, souvent les autres qui nous disent morts, comme là pour Lazare. Les autres ont vite fait de nous enterrer, ou d'enterrer leurs proches, de nous déclarer fichus, plus bons à rien. Les autres ont vite fait de nous enfermer dans des catégories, dans des jugements, dans des condamnations. Et pour que le compte soit total, les autres ont vite fait aussi de nous rajouter encore des bandelettes et des linges pour cacher notre visage, et des bandelettes pour être sûr que nous ne puissions plus bouger. Prisonnier de la mort, prisonnier des autres, prisonnier de notre imperfection, enfermé dans notre péché, enfermé dans nos échecs, enfermé dans notre tristesse, enfermé dans nos deuils, enfermé dans cette impression terrible de croire que l'on ne pourra jamais s'en sortir, que l'on ne pourra jamais se relever. Et tous les autres sont là pour le confirmer. Il est fichu. Il est par terre, il ne pourra plus se relever. Eh bien, le Christ, lui, peut nous relever. Il peut nous libérer. Il peut nous réapprendre à vivre. Il peut nous redonner la vie. Et ça, c'est ça le message extraordinaire, je crois, que nous avons là. Alors certes, oui, c'est vrai, ce n'est pas si facile. Et pour Lazare, on voit que le processus est assez complexe, il est assez lent. Lazare sort du tombeau, certes, mais quand il sort, il ne sent quand même pas très bon. Il a encore ses bandelettes, il a encore ce linge qui lui cache le visage, qui l'empêche de voir. Et il va falloir un peu de temps pour que tout cela soit parfait, pour que tout cela se remette en route. Mais néanmoins, Lazare sort du tombeau, il est vivant, il est debout et il est libre. Alors nous sommes là, je crois, bien au-delà d'une petite leçon de morale qui nous dirait qu'il faut garder confiance et qu'avec un peu de courage, on peut s'en sortir et que dans la vie, même si c'est difficile, il faut croire qu'on peut y arriver et alors on peut y arriver, ça peut aller mieux. Parce que je crois que ce texte est, même si ce que je dis n'est pas faux, ce texte est beaucoup plus radical que ça. Parce que là, il s'agit vraiment d'une résurrection totale. Lazare, même si historiquement, je ne sais pas s'il était vraiment mort, mais symboliquement, dans le sens du texte, Lazare était vraiment mort. Vraiment mort. C'est-à-dire qu'il a touché le fond du fond. Il n'en est plus à se dire « ça ne va pas très bien, mais je vais me reprendre en main et je vais y arriver ». Et l'auteur de la résurrection, ce n'est pas Lazare avec l'aide de Dieu. L'auteur de la résurrection, c'est Dieu, par le Christ. Ce n'est pas Lazare qui arrive à s'en sortir plus ou moins tout seul, c'est vraiment Dieu qui ressuscite. Et je crois qu'il y a là, effectivement, un message très radical sur l'espérance que nous pouvons avoir en Dieu. Bien sûr, la volonté peut aider. Bien sûr, elle peut nous sauver dans certains cas. Mais là, je crois que le Christ veut nous montrer qu'il y a une véritable action de Dieu, même quand la volonté n'est plus suffisante. Et c'est pour démontrer cela qu'il attend. En effet, on se demande toujours pourquoi il n'est pas venu guérir Lazare avant qu'il soit mort, pendant qu'il était encore temps. Et le Christ lui-même donne la réponse. Il dit « Je suis content de ne pas avoir été là tout de suite et d'avoir attendu que Lazare soit vraiment mort, pour que vous puissiez, dit-il, voir exactement quelle est la puissance de Dieu. » Et en effet, c'est pour que les disciples voient l'action de Dieu, la radicalité de ce que Dieu peut accomplir dans une vie. Et certes, le Christ a souvent guéri. Et certes, je crois que la présence de Dieu est vraiment une aide dans une vie. Et comme avant d'être complètement abattu, je pense qu'effectivement, si Dieu est avec nous, si le Christ nous accompagne, il y a une aide véritable et que cela peut nous aider à reprendre pied, pas seulement par la volonté, mais aussi avec le soutien et l'aide de Dieu. Oui, ça c'est indéniable. Il n'y avait pas de nécessité d'attendre que Lazare soit au fond du fond pour que Jésus puisse le sauver. Sans arrêt, Jésus sauve des malades avant qu'ils meurent. Mais néanmoins, là, on voit que par-delà cette aide de Dieu, qui peut nous éviter de tomber dans ces enfermements mortifères, cela montre que Dieu peut faire plus que du bricolage. Et il dit finalement, je suis content de ne pas avoir été là. Parce que si j'avais été là, eh bien, j'aurais sûrement aidé Lazare à ne pas mourir, mais ça aurait été un peu du rafistolage d'existence, en quelque sorte. Alors que je veux vous montrer que Dieu peut faire plus que du bricolage, plus que du rafistolage. Il y a quelque chose de plus fort, de plus grand. C'est que Dieu peut donner une vie nouvelle. Dieu peut vraiment ressusciter. Dieu peut vraiment remettre en vie. Et à partir même de rien. Une vie nouvelle. On voit qu'il y a en Dieu une puissance extraordinaire de vie, de nouveauté de vie, de relevé, d'espérance et de joie. Et cela par sa seule œuvre, même quand il n'y a plus rien en vie dans l'être humain. Quant au processus, je vous disais qu'il est complexe, et il est merveilleusement décrit dans ce texte. Parce qu'en fait, il n'y a pas Dieu, que Dieu qui est acteur. Certes, c'est Dieu qui fait l'essentiel, je ne veux pas le nier, mais il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi le Christ, il y a Lazare lui-même, qui participe d'une certaine manière, et puis il y a des proches. Et chacun a un rôle, et c'est vrai que c'est très difficile de redonner vie à quelqu'un, ou de renaître à la vie. Et que pour ça, il faut qu'il y ait quand même différents éléments qui aillent dans le même sens. Pour la résurrection elle-même, passant le fait que c'est quand même les proches de Lazare qui sont allés chercher Jésus, mais pour la résurrection elle-même, c'est Dieu qui ressuscite Lazare. Sur ce point, il n'y a pas de doute. Dieu ressuscite Lazare. Mais ce Dieu qui ressuscite, il est présenté d'une manière bien particulière. D'abord parce qu'à la fois on insiste sur sa puissance, sur sa gloire, et c'est vrai que Dieu peut faire infiniment dans une vie, j'espère vous l'avoir dit suffisamment. Mais aussi à plusieurs reprises, il y a cette chose très curieuse de Jésus, dont on nous dit qu'il est troublé, qui frémit dans son esprit, et même, chose extraordinaire, qu'il pleure. Passage unique dans tout le Nouveau Testament. Verset le plus court et peut-être l'un des plus essentiels de toute la Bible, deux mots seulement, Jésus pleura. Et sans doute que c'est important, oui, parce que cela nous montre que ce Dieu qui peut nous sauver, et la foi qui peut nous sauver, c'est la foi dans un Dieu certes puissant, et il faut croire dans ce Dieu puissant qui peut donner la vie. Mais c'est aussi un Dieu qui n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu indifférent, c'est un Dieu qui compatit. C'est un Dieu qui est proche, c'est un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous accompagne, un Dieu qui pleure avec nous aussi, un Dieu qui nous comprend. Et bien sûr, Jésus aurait pu dire, mais enfin, ce n'est rien, tu sais très bien que je vais te ressusciter, pourquoi être triste, gens de peu de foi. Ce n'est pas là le Dieu de Lazare, c'est un Jésus qui pleure avec nous. Alors, il faut, je crois, comprendre que le Dieu qui peut nous sauver, c'est quand on a ce Dieu à la fois qui nous comprend et qui est proche, et à la fois un Dieu qui est infiniment puissant. Si on n'a que l'un des deux aspects, Dieu sera inefficace dans nos vies. Si l'on prêche simplement un Dieu qui pleure avec nous et qui ne fait rien, eh bien, ça nous fait une belle jambe d'avoir un Dieu qui pleure avec nous. Et si l'on n'a qu'un Dieu tout-puissant mais qui ne pleure pas avec nous, et alors, ce Dieu ne peut même pas nous rencontrer. Donc ça, c'est la première chose essentielle. C'est que cette présence infiniment proche de Dieu, de tendresse, de douceur, de compréhension, qui pourtant ne fait aucune ombre à sa puissance extraordinaire et infinie, au contraire. Ensuite, si c'est Dieu qui est la source unique et active de la vie nouvelle, de la relevée, c'est vrai, il y a aussi Jésus. Jésus, c'est celui qui met en contact, c'est celui qui appelle, qui montre la puissance de Dieu. Il est celui qui nous fait connaître cette puissance et qui nous permet d'en bénéficier. Il proclame et il dit bien que publiquement, il prie Dieu en disant « Je te prie pour que les gens comprennent bien que ce n'est pas moi qui te ressuscite, c'est Dieu. » Il est aussi celui qui appelle, c'est celui qui donne des ordres. « Faites ceci, faites cela, enlevez la pierre, enlevez les bandelettes. » Et il est aussi celui qui appelle et qui dit « Lazare, sors. » Et je crois que c'est vrai, c'est par l'Évangile, par ce texte humain de l'Évangile et par la prédication du Christ que nous comprenons ce que nous pouvons faire pour nos proches, pour les autres, pour ceux qui sont abattus et blessés. Et que le Christ nous dit, enlevez les pierres, enlevez ces déterminismes, enlevez tous ces liens par lesquels vous les enfoncez, vous les attachez, vous les accrochez. Donnez-leur de la liberté, donnez-leur de pouvoir sortir de tout cela. Et c'est aussi par l'Évangile que nous entendons cette voix qui nous dit « Toi là, Dieu qui m'appelle par mon prénom, sors, lève-toi et marche. » Oui, c'est Dieu qui donne la liberté de sortir. Alors on pourrait dire « Mais oui, il y a cet appel de sortir, mais en fait la résurrection était avant cet appel. Et si moi je peux sortir, si j'ai une chance d'y arriver et d'entendre cet appel, c'est parce que avant Dieu m'a ressuscité. Dieu a ressuscité Lazare avant que Jésus lui demande de sortir. Il y a donc en fait quelque chose qui se passe en deux temps. En deux temps, il y a là une vision extraordinaire de la façon avec laquelle la puissance de Dieu, à un moment donné, ne peut se faire qu'avec la coopération et la collaboration de l'homme, parce que certes, Dieu ressuscite Lazare, mais Jésus n'est pas allé dans le tombeau pour le prendre par la main et le faire sortir de force. Il a fallu quand même que Lazare entende cet appel pour qu'il puisse sortir. Sinon, il aurait été vivant, mais toujours enfermé. Et puis ensuite, il y a les proches. Les proches qui sont essentiels. Jésus donne beaucoup d'ordres. D'abord, d'enlever la pierre du tombeau, ensuite d'enlever les bandelettes. Et je crois que c'est important. Parce qu'il est bon de savoir qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Et même avec l'aide de Dieu. Il nous faut des frères, il nous faut des sœurs qui nous aident. Peut-être notre famille, mais on ne choisit pas toujours sa famille. Peut-être une communauté que l'on se choisit. Mais tout seul, je crois que c'est extrêmement difficile. Même avec l'aide de Dieu. Et ce que les autres peuvent faire pour nous, ou ce que nous pouvons faire pour les autres, suivant dans quelle situation on se considère, c'est d'enlever les enfermements que nous avons tendance à jeter sur ceux en qui nous n'avons plus confiance. C'est l'expérience aussi de tous ces groupes, comme pour les alcooliques anonymes ou la Croix Bleue ou toutes ces choses-là. On sait très bien que l'importance de la communauté, l'importance des autres, et que tout seul, eh ben c'est vraiment, je crois que ça n'est pas possible en fait. Et peut-être est-ce là aussi qui nous montre la place essentielle de l'Église que les protestants ont tendance à oublier. Oui, bien sûr, je peux prier Dieu tout seul dans mon coin, je peux lire la Bible et Dieu me ressuscite dans ma chambre à coucher. Mais néanmoins, la communauté est essentielle. Le regard des autres, un regard qui remet debout, un regard qui libère au lieu d'enfermer dans des condamnations, ça c'est fondamental. Et peut-être que l'Église devrait être cette communauté de frères et de sœurs qui gardent confiance dans chacun de leurs membres et qui gardent l'espérance pour nous quand même nous n'en aurions plus. Un entourage qui nous rend libres et responsables, qui nous considère comme dignes de l'être, contre toute apparence. Et ce n'est pas évident. « Seigneur, il sent déjà, » dit Marthe. Oui, c'est ça la tendance des proches. C'est trop tard, c'est fichu. Il est plus que mort. Il pue. Et nous voulons même plus le voir s'en sortir. Nous n'y croyons plus. On l'enferme pour ne pas le voir. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait des proches qui croient en nous. Des gens qui croient en nous. Des proches qui, en effet, avant, après et aussi pendant la guérison, qui n'est pas immédiate, qui nous aident. « Enlevez-lui les bandelettes, » dit Jésus. « Libérez-le, aidez-le à se retrouver lui-même. » Et finalement, il dit « Laissez-le aller. » Encore un message de liberté. Oui, on est loin des sectes qui libèrent d'une chose pour mettre leurs clients sous une autre dépendance. Et là, c'est pour rendre la liberté et l'autonomie. Eh bien oui, je crois qu'il n'y a pas de plus beau texte de résurrection que celui-là. Il est dommage que notre esprit rationaliste et positiviste se pose les mauvaises questions de savoir comment ça s'est passé, pourquoi, est-ce que c'est vrai, pas vrai, possible, pas possible. Parce que vraiment, c'est ce texte-là qui est extraordinaire, de cette libération de tous les déterminismes, de tous les enfermements, de toutes les logiques humaines. Et c'est vraiment ce texte qui nous montre, de la plus belle manière qui soit, cette extraordinaire foi et espérance que nous donne le Christ, nous disant qu'il est la résurrection et la vie, et que celui qui croit en lui vivra quand même il serait mort, parce que quiconque vit et croit en lui ne mourra jamais. Amen.